Le 21 mars dernier, à l'occasion de la Journée internationale de la forêt et de la Journée nationale de la poésie, qui tombaient le même jour, nous avons décidé d'entremêler ces deux thèmes. Alors, lors de notre midinale, nous avons fait se rencontrer poètes et forestiers. Vous pouvez réécouter les différentes interventions sur ce podcast. Alors, je vous propose de commencer tout de suite cette midinale, cette réécoute de midinale spéciale forêt et poésie, par une interview. Celle de notre poète local, César Cassarine.
Bonjour.
Je vous laisse le soin de vous présenter comme bon vous semble.
Oui, donc César Cassarine, c'est un pseudo qui correspond à... C'est un pseudo d'auteur, voilà. Dans le passé, j'étais formateur, puis animateur. Depuis que je suis à la retraite, j'écris. Mais j'ai commencé à écrire bien avant, à partir de l'âge de 35 ans.
Vous êtes le poète de notre territoire.
Ouf.
Le territoire vous a adopté, en tout cas.
Le territoire m'a adopté, voilà.
Alors, vous avez beaucoup écrit sur la nature, sur différents sujets. Quelles sont vos sources d'inspiration en poésie, mais également dans d'autres genres?
Oui, donc les poètes qui m'inspirent, c'est Rimbaud et Baudelaire. Et j'avais une phrase aussi qui disait « Rimbaud de l'air vaine », c'est-à-dire qui regroupe Baudelaire, Rimbaud et Verlaine. Et sinon, je suis... oui, j'aime beaucoup la nature, j'ai grandi dedans et je suis très à l'aise quand je suis dehors, au milieu des arbres, près d'une rivière, enfin près d'un lac... tous ces paysages qui recèlent du sauvage, voilà.
Il y a un lieu qui vous inspire plus que les autres, c'est la tourbière de Longéroux.
Oui, alors ça avait commencé avec une personne pour faire un recueil autour de la tourbière du Longéroux. Et donc cette personne a fait des photos. Donc je ne cite pas son nom parce que je ne sais pas ce qu'elle va en faire de ses photos. Et moi, j'ai fait des haïkus. Donc des haïkus, c'est des petits poèmes inspirés de ce qui se fait au Japon, qui ont 17 syllabes, en général sur 3 vers. J'ai fait à peu près 80 haïkus sur la tourbière du Longéroux. Alors, après, il y en a des plus réussis que d'autres, mais c'est petit... de la création.
Un joli recueil à quatre mains, alors? Ou alors à deux mains et un objectif?
Ben, je ne sais pas. Je pense pas que les photos sont faites, mais je ne sais pas si elles vont être exploitées ou pas. Donc, voilà. Mais ce n'est pas moi qui les ai faites.
Oui, bien sûr. Vous nous en reparlerez, en tout cas, si vous décidez d'en faire quelque chose. Vous écrivez de la poésie, mais aussi des romans, des nouvelles?
Oui. J'ai deux romans de publiés, donc le dernier s'appelle L'Armatrice, et ça parle de, non pas de la forêt, mais ça parle de la reproduction chez les humains, avec l'introduction de quelque chose qui s'appelle un utérus artificiel.
Voilà. D'accord, oui, vous touchez également à la science-fiction.
Oui, c'est de la science-fiction ou pas, enfin... En général, la science-fiction, c'est quelque chose qui où on élimine une contrainte pour pouvoir s'évader dans ce champ nouveau qui. Moi, j'essaye de rester assez proche de ce que nous promet l'avenir. Donc, je développe les sentiments qu'il y a là-dedans. Il y a une histoire d'amour, il y a une histoire de procréation, etc. quoi. Et j'ai écrit un autre roman aussi qui s'appelle Histoire d'essayer, essayons, qui se passe là encore, c'est sur la génétique, et c'est un laboratoire qui s'appelle Montenceau, qui est chargé de mettre au point des... semences OGM pour faire du bio. C'est une aberration.
L'actualité vous inspire?
Oui.
C'est une de vos sources d'inspiration. Quelle est la place de la poésie, à la fois dans votre vie et dans le monde en général?
Alors, en ce qui me concerne, la poésie, c'est évidemment lié au langage, à la langue, et il faut, enfin, c'est une manière de mettre en lumière à la fois les zones d'ombre du langage et aussi de le booster, de lui donner d'autres reliefs et de pouvoir innover dans ce domaine sans passer sur, en ce qui me concerne, sans passer sur le domaine de l'anglais, quoi, en gros. Mais je n'ai rien contre les gens qui utilisent le nouveau langage. Ça a toujours été l'évolution.
Oui, la variation, ce qu'on appelle la variation diachronique, de tout temps, la langue a évolué.
A évolué.
Au fil des siècles, elle évolue parfois plus vite qu'à certains moments. Vous lisez Baudelaire, vous connaissez le spleen.
Oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, le spleen, c'est le seum?
C'est ce que j'ai cru comprendre.
Oui.
J'ai cru comprendre que c'était la même chose. Mais...
Donc Baudelaire fait écho aux jeunes gens de notre époque, selon vous?
Oui.
Vous leur conseillez de lire Baudelaire?
Absolument, oui. Oui, oui. Je leur conseille de lire Baudelaire et peut-être même commencer par un poème qui va leur paraître peut-être étrange. C'est L'étranger, le plus parlant quand vous êtes un peu différent. Voilà.
Le mien, c'est Les bienfaits de la lune. Vous le connaissez?
Non.
Vous le lirez? C'est un poème qui s'adresse à tous les lunatiques, à tous les amoureux de la poésie, finalement.
Dans le même style que... Enfin, c'est par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, Gaston Bachelard.
Oui, c'est ça, Gaston Bachelard, qui est un philosophe qui a beaucoup travaillé sur les rêveries élémentaires, donc les éléments, l'eau, la terre, l'air, le feu. Si vous deviez vous ranger dans une ou deux de ces catégories, vous diriez que vous êtes un poète... De la terre? Un poète des tourbières, c'est un poète de la terre, non?
Et de l'eau.
Et de l'eau?
Et de l'eau.
Oui, oui, c'est ça, vous me disiez que vous êtes Verseau.
Oui, c'est
Verseau.
Ça.
Mais le Verseau, c'est aussi un signe d'air.
C'est un signe d'air? Je ne savais pas. Oui, oui, mais... oui, moi, c'est plus l'eau et... C'est plus l'eau, quand même. Je suis plus... alors, le poisson, c'est un signe d'eau?
Oui, oh bah, je pense que là, oui, on est sûr que c'est un signe d'eau.
Bon,
oui.
Voilà.
Alors, l'eau en poésie a différents motifs, puisqu'on a l'eau maternelle, l'eau douce, l'eau érotisante. On peut imaginer les nymphes dénudées dans l'eau.
Oui.
On a aussi l'eau en colère, les ouragans, la tempête, l'eau qui s'affole. Quelles sont les eaux qui vous inspirent le plus? Est-ce que c'est l'eau calme de la tourbière?
La tourbière, c'est un énorme filtre. D'où naissent maintes sources et donc maintes ruisseaux qui finissent par arriver à la mer. Alors, quelles sont les eaux qui m'inspirent le plus? Je ne sais pas. Je pense quand même que l'eau qui tombe du ciel et la mer sont les deux eaux qui m'inspirent le plus.
Les eaux calmes?
Ben, l'eau qui tombe du ciel n'est pas toujours calme.
N'est pas toujours calme,
ouais.
Vous vous nourrissez des deux? J'aimerais vous poser une question sur la poésie contemporaine. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont commencé à écrire en publiant leurs poèmes sur les réseaux, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Ces poètes-là, notamment Cécile Coulon, que vous connaissez bien, puisque vous connaissez l'Auvergne, ont ensuite été assemblés dans un recueil. Ça a permis à des gens d'avoir le réflexe d'acheter un recueil de poésie, alors que ça n'était pas forcément le cas avant. Qu'est-ce que vous pensez de ces poètes des réseaux?
Ben, j'en pense du bien. C'est-à-dire que à partir du moment où on écrit et qu'on est satisfait de ce qu'on a écrit, il faut le faire savoir. Et le réseau, les réseaux sociaux, c'est un moyen comme un autre de le faire savoir. Et si ça rencontre du succès, évidemment, ça conduit à l'édition. Donc, non, je trouve ça très bien.
Est-ce qu'il faut forcément être un poète publié pour être un poète?
Je ne pense pas. Alors, moi, dans ma vie, j'ai rencontré des gens qui n'avaient peut-être même jamais écrit, mais qui avaient toutes les caractéristiques du poète, c'est-à-dire un regard différent sur le monde, une sorte de sagesse, une sorte de... de sympathie instinctive par rapport à ce qui les entourait, même souvent un amour des animaux, des êtres, des arbres. Donc c'est ça qui est important.
La poésie, c'est un amour, c'est un regard. Ce n'est pas forcément quelque chose de difficile, quelque chose de compliqué, quelque chose de fastidieux, réservé au grand génie.
Non. La poésie, c'est... J'ai écrit dans un de mes anciens poèmes que la poésie est la sœur de l'amour. Donc, c'est accessible à tout le monde. Le tout, c'est d'avoir une sensibilité qui vous permet d'interroger la langue et le langage par rapport à ce que vous avez envie de faire passer.
Il y a une phrase qui commence à être célèbre, une phrase de Jean-Pierre Siméon, « La poésie sauvera le monde ». Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ?
Ben non, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est la richesse des regards possibles sur le monde qui nous permettra de sortir de ce qu'est le regard économique.
Alors vous me disiez que vous êtes un poète de l'eau. Vous êtes aussi, pour moi, un poète de la terre, un poète du territoire. Est-ce que vous vous inscrivez dans ce mouvement ? Ce nouveau mouvement dont on parle beaucoup depuis quelques années, ce mouvement qui est l'éco-poétique. Est-ce que vous écrivez dans le but de défendre l'environnement ou du moins d'attirer l'œil sur certaines choses et de protéger par conséquent certains espaces ?
Alors, je n'écris pas dans ce but, mais la protection, enfin l'eau, l'air, la vie, si vous voulez, c'est quelque chose qui est inspirant et... La poésie, c'est pas un tract, mais c'est une source d'inspiration pour dire quand même que on est dans un monde qui mérite qu'on le regarde autrement qu'avec des yeux de maquignon, quoi.
Quelle est la vie d'un poète en Limousin ? Est-ce qu'un poète s'ennuie ou au contraire, est-ce qu'il peut trouver l'inspiration en Corrèze, en Haute-Vienne, en Creuse ?
Non. Un poète peut trouver l'inspiration. Enfin, un poète a besoin d'être. Enfin, un poète est un créateur aussi, hein, parce que le poète c'est aussi un créateur. Faut pas l'oublier. A besoin d'être environné par les choses qui l'inspirent. Donc, la nature, évidemment, l'eau, des paysages. Prometteur, mais on peut trouver ça en ville aussi. Mais enfin, sauf que moi, ma sensibilité, elle est plus tournée vers ça. Par contre, ce que je trouve qui manque un petit peu ici, c'est tout ce qui est spectacle. On n'est pas, il n'y a pas beaucoup de spectacles. Où on peut rencontrer des gens ayant les mêmes attaches ou les mêmes sensibilités ou qui viennent nous faire passer des choses. On est dans une région qui est pauvre en spectacle. Voilà.
Peut-être des choses à faire alors ?
Oui, tout à fait.
Alors aujourd'hui, c'est la journée internationale de la forêt, mais également la journée nationale de la poésie. Est-ce que selon vous, forêt et poésie font bon ménage ?
Oui, tout à fait.
Tout à fait, hein.
Tout à fait.
On est d'accord tous les deux sur ce sujet. La forêt vous inspire, puisque vous avez écrit un recueil consacré aux champignons.
Oui, oui. Mais on trouve des champignons en forêt, effectivement, mais on en trouve aussi dans les prés. Mais oui, la forêt abrite une multitude de champignons. Des fois, ils sont discrets, des fois, ils sont colorés, des fois, ils sont tout blancs. Ça fait partie des petites surprises qu'on a quand on se promène. Des agréables surprises.
Vous nous en faites découvrir quelques-uns ?
Amanite des Césars. Amanite à parure de star. Un zeste de citron aux lamelles. Un orange qui dérange le chapeau. Qu'un pied resplendissant, bagué de blanc. Porte avec l'élégance d'un aristo. Tu crois où bon te semble, dès au gré de tes caprices. Il est si rare de te rencontrer, d'avoir le privilège de t'approcher, de t'admirer et même de te déshabiller, tant l'esprit pétri de représentations maléfiques s'obstine à bannir le vermillon de l'assiette des stimulations mycologiques. Tu lègues ta notoriété à la fosse orange, chapeau rouge et bouton blanc, qui hallucine les hommes tandis que tu les ravis.
Allez-y.
Alors celui-là n'a pas de titre. Un réseau de larmes de lait fleurit en terre mouillée, s'étend dans le monde chtonien comme un internet sans proxénète. Il libère ses fruits d'automne, symphonie sensuelle cryptée pour les seuls amateurs éclairés avant d'hiberner sous une chaude litière que lui ont apprêtée mousses et bruyères. Réveillé parfois par les déchirures atroces des guerriers de la forêt montés sur fardier, il se replie, se disperse, se régénère, comme l'armée des ombres, avant de se remettre en embuscade entre deux racines barricades. Mycélium mystérieux qui s'épanouit loin des yeux, tu nourris les messagers d'un processus libertaire fabuleux. Et un autre qui n'a pas de titre. Arbre, arbuste et champignon, un cycle de collusion trahison, champignon et arbre, un amour scellé dans le marbre qui cache une passion macabre. Racines et mycélium, comme des adolescents, jouent et s'embrassent, s'entrelacent en virtuose, inventent la vie en symbiose. Au fil des saisons, du dégel à l'orage, apparaissent de petites choses, à chapeau roux, violet, jaune, rose, apothéose d'un sous-bois souriant, progéniture d'un heureux mariage. Le tronc solennel devient échelle, tremplin pour lutin attiré par la lune. Petit à petit, les petites choses prennent goût à l'escalade, transforment les feuilles en marmelade, profitent de la moindre blessure pour s'improviser point de suture. Quand le poids des ans fait le tronc noueux et les branches voûtées, comme des grappes d'hémorroïdes, avec la vigueur des spermatozoïdes, les champignons en liesse se rient de la détresse silencieuse du bois centenaire. Une fois à terre, l'arbre pourrissant se pare de mille couleurs de champignons sautillants qui libèrent par millions les spores de l'invincible armée des croque-morts.
C'était César Cassarine pour Radio Vassivière. À bientôt, César.
À bientôt, merci.
Après notre poète local, César Cassarine, nous avions invité Lionel lors de cette midinale du 21 février. Lionel était venu nous éclairer sur les différents termes qui renvoient au terme même de forestier. Qu'est-ce qu'un forestier? Qu'est-ce que ça veut dire d'être forestier? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est une passion? Aujourd'hui, ce thème semble avoir multiples définitions.
Voilà, en fait, et je suis venu avec Julien aussi, qui est futur forestier, qui est déjà forestier parce qu'il apprend la forêt.
Oui,
et,
oui non, mais si, c'est vrai, on est forestier à partir du moment où ça nous intéresse, en fait, je pense, tout simplement.
Voilà.
La forêt, ça m'intéresse, donc j'apprends et puis je deviens forestier, sous l'égide de Lionel, en tout cas.
Voilà. Madeleine aussi, tu es forestière, alors?
En tout cas, moi, j'adore aller à la cueillette aux champignons, ça compte.
Ça compte, t'es forestière,
ça compte. Parfait. Ça compte, Camille aussi, tu te définis comme forestière?
Oui, quelque part, parce que je me sens chez moi dans la forêt. Et j'ai aussi travaillé à l'école forestière, donc voilà. C'est pour ça que j'ai connu Lionel.
Oui. On leur fait un petit coucou, on les salue d'ailleurs.
Voilà, et alors justement, si on peut parler de l'école forestière, pour la découverte des métiers, voilà, de MEMAC, hein, c'est pour la découverte des professions en forêt, on vous invite à venir ce week-end à la journée porte ouverte, samedi donc 25 mars, de 9h à 16h, à l'école forestière, où là, vous pourrez rencontrer toute l'équipe pédagogique des formations initiales, donc au lycée de l'école forestière, donc qui forme pour donc ça part de la troisième nature, forêt et jardin, hein, on peut commencer dès la troisième pour s'immerger un peu dans les dans le monde du végétal, ça va du de la gestion des gazons jusqu'à l'arbre, jusqu'à la forêt, et puis après pour entreprendre en formation initiale un bac pro forêt, donc là qui permet de passer son bac professionnel et ensuite d'aller vers les BTS, donc différents BTS, le BTS technico-commercial, pour vendre, on va dire, pour connaître mieux le bois en lui-même et pouvoir effectuer le commerce du bois, et le BTS gestion forestière pour être dans l'amont de la filière forestière et donc se prédestiner plutôt à ces métiers de technicien forestier, gestionnaire forestier indépendant, également expert forestier pour ceux qui veulent aller le plus loin possible dans leur appréhension de la forêt. Il y a également la licence forestière, hein, licence c'est un bac plus 3, donc là c'est le niveau le plus élevé que l'école forestière propose en formation initiale. Voilà, et puis formation initiale, après il y a les formations professionnelles adultes, où là, tout au long de sa vie, hein, on a la chance de pouvoir se former et de pouvoir, comme Julien, changer de cap, professionnellement parlant, et de découvrir les métiers de la forêt. Donc c'est les formations dispensées par le CFPPA, dans lequel je travaille. Et donc là, il y a tout un panel de formation.
Tu as grillé ta couverture, là.
Voilà, donc il y a les formations vraiment forestières. Donc c'est le BPA, travaux de bûcheronnage, travaux de sylviculture, le BP, responsable de chantier forestier, le BPA, conducteur de machines forestières, pour ceux qui veulent s'orienter vers le débardage et la conduite d'engins en forêt. Voilà, sur lequel j'interviens également pour la botanique, la pédologie, parce que c'est important dans ces métiers-là d'avoir des bonnes approches au niveau des impacts que l'activité humaine occasionne en forêt, quand on fait intervenir des engins lourds. Et puis également, le CES, le CES arboriste et lagueur, pardon. Voilà, justement, peut-être que aussi
oui,
Julien,
peut-être je pourrais en parler,
voilà,
un peu.
Va en parler un petit peu.
Alors justement, tu nous as, dans la présentation de l'école forestière et des formations, on comprend que la forêt est un métier d'avenir, ou plutôt des métiers d'avenir au pluriel. Tu as cité nombre de métiers. Est-ce que tu peux nous les expliquer en détail, notamment le métier de grimpeur et lagueur, en quoi est-ce que ça consiste ?
Alors, le métier de grimpeur et lagueur, moi, c'est pas ma spécialité parce que je fais le bûcheronnage, donc c'est la récolte et la sylviculture. La sylviculture, c'est l'entretien des forêts, hein, l'entretien des peuplements forestiers. Après, le BP dont je m'occupe pour les adultes, hein, donc c'est des formations vraiment qu'on peut prendre en cours de route, enfin dans sa vie active, jusqu'à 60 ans. Moi, j'ai des stagiaires qui peuvent avoir 60 ans. Hein, après, un bon bilan de compétences au niveau de Pôle Emploi. Mais le BP dont je m'occupe permet d'être un tremplin en fait pour être bûcheron, sylviculteur ou également grimpeur, donc arboriste et lagueur.
C'est la formation.
C'est ce que moi je voudrais faire en fait.
Voilà, Julien, lui, il fait actuellement un BP responsable de chantier forestier.
Tout à fait.
Dans le but de découvrir un peu la manipulation de la tronçonneuse déjà.
Oui, puis la forêt tout simplement, puis, parce que j'y connaissais rien du tout, faut être honnête.
Et donc, ouais. ce métier, dans quelle mesure les lagueurs prennent soin de la forêt ? Est-ce que tu peux nous expliquer
Dans quelle mesure les lagueurs prennent soin ? Alors, déjà, c'est un